So good morning, everyone.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Colette Downey. Je suis la directrice générale de Marketplace Framework Policy à Industrie Canada. Et je suis l'animatrice de la séance. Bon nombre de vous avez été invités à partager vos opinions dans ce processus de consultation. Et nous avons hâte d'entendre vos commentaires. Les services d'interprétation simultanée sont disponibles. Vous les voyez derrière dans la cabine. S'il vous plaît, sentez-vous libre de participer dans la langue officielle de votre choix. Afin de veiller que nous ayons une traduction de bonne qualité, nous vous demandons de parler de façon claire et lente, si possible, et utiliser le micro. Bien sûr, c'est une discussion qui va être aussi libre que possible. Et nous avons seulement 90 minutes et nous voulons être aussi productifs que possible. Et nous voulons que vous soyez bref dans vos commentaires et que vous cibliez les questions qui sont d'une grande importance pour vous. Nous aurons les services d'interprétation et aussi les micros pour enregistrer la discussion de ce matin. Et selon l'invitation que vous avez reçue, cette discussion sera affichée dans les deux langues officielles sur le site web de la consultation sur le droit d'auteur en fichier audio et en transcription écrite. Les photos prises aujourd'hui pourront également être affichées sur le site web. Et pour toutes ces raisons, je vous demande de vous présenter avant de prendre la parole, afin que sur la version audio, il est clair qui fait le commentaire entendu. Nous avons 90 minutes ce matin. Il se peut que j'intervienne pour vous demander d'en finir avec vos commentaires si le temps avance et qu'il paraît que nous n'allons pas avoir assez de temps. Monsieur Clement, bonjour tout le monde. Merci d'être venu ce matin dans cette belle ville ensoleillée. Ben, c'est du soleil liquide que nous appelons. Là d'où nous venons, nous en sommes à la troisième semaine d'une consultation un peu partout d'un océan à l'autre. James Moore et moi, mon collègue, menons ces consultations ensemble et nous nous entretenons avec Canadiens et Canadiennes de partout au pays pour parler de la façon de se moderniser pour ce qui est de la loi sur le droit d'auteur. Nous avons assisté à plusieurs consultations ensemble. Nous étions à Vancouver ensemble et aussi à Gatineau ensemble. J'ai mené une discussion à Calgary, j'en suis à une autre de façon solo et j'aurai une discussion, une audience publique à Toronto d'ici quelques semaines. Ainsi, nous nous déplaçons, c'est d'ailleurs ce qui devrait se faire. Et bien sûr, nous sommes ici à Pier 21, un endroit très historique et je ne peux m'empêcher de vous dire à quel point c'est un symbole pour nous tous qui sommes immigrants, y compris moi, que d'être ici, un établissement qui va bientôt devenir un musée national, résultat tout à fait extraordinaire et formidable, et nous espérons que cela va nous inspirer pendant ce nouveau départ pour ce qui est de la loi sur les droits d'auteur. Je pense que les discussions ont été très intéressantes jusqu'à présent.
Au fil des ans, apporter des modifications de la législation canadienne sur le droit d'auteur. Mais en raison de l'évolution rapide des technologies, nous devons de nouveau refaire cet exercice afin de l'adapter aux besoins d'aujourd'hui, tout en pensant à l'avenir aussi. Tel est le sujet de la discussion aujourd'hui que nous aimerons avoir avec vous. And of course,
et bien sûr, nous demandons, d'ailleurs comme Colette vous l'a dit, les meilleurs conseils que vous pouvez partager avec nous, parce que nous nous attaquons à ce problème avec très peu d'idées préconçues et nous voulons en arriver à un meilleur résultat tout en retenant ce qui fonctionne bien pour nous aujourd'hui et aussi nous mettre à jour dans le but de décider que tout ce que nous pouvons faire va durer au-delà du 21e siècle. Et c'est une idée que j'ai à vous partager avec vous, c'est que nous ne voulons pas revenir année après année ou décennie après décennie sur cette même loi. Nous voulons être assez avant-gardiste du mieux que nous pouvons et de participer de façon générale et nous sur ce quoi nous devons nous pencher et ce à quoi nous en sommes aux prises pour ce qui est des modifications technologiques pour aujourd'hui et à l'avenir. Il nous reste un peu de travail à accomplir. Nous avons mis en ligne un nouveau site web pour ceux qui ne peuvent participer à ces discussions. Il y a copyright.e.constellation.ca et le site web. Et nous avons de 30 à 35 communications par jour. Et ça compris aussi la longue fin de semaine. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui ont du temps à passer, mais avec les fins de semaine pluvieuses que nous avons vécues cet été, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Au 5 août, 725 présentations nous ont été affichées. Et on en est à la troisième semaine. On me dit qu'en 2001, la consultation avait seulement reçu 700 exposés. Donc, en trois semaines, nous avons déjà dépassé le nombre reçu il y a 8 ans. Que puis-je ajouter? Il y a le forum en ligne. Il y a 675 participants à ce forum à un moment donné. Tout à fait remarquable, je pense. Et nous sommes en ligne sur le Twitter. Il y a beaucoup d'échanges dans le cadre de ce programme, beaucoup de bonnes rétroactions. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais demander à Paul que nous allons aller dans les sens de les aiguilles de l'horloge et faire le tour de table. Et à la fin de cette consultation, je vous demande de participer à une discussion libre pour permettre aux gens, parce qu'il y a quand même des présentations formelles déposées au nom de vos associations que vous allez nous donner, mais ça donne la chance de commenter les présentations les uns des autres à la fin de la discussion. Donc, Paul Charbonneau, vous avez la parole. Je suis Paul Sharp. Et responsable de l'American Federation of Musicians of the United States and Canada. Merci au ministre de m'avoir permis de participer à cette occasion et ce processus qui est très nécessaire. Avant d'aller plus loin, quelques petits détails, comme le ministre Clement l'a noté, je serai bref, parce que nous avons plusieurs personnes autour de la table ce matin, donc je serai bref. Cependant, et ce pour l'avantage de ceux et celles qui vont écouter le blog ou peut-être vont télécharger la transcription de cette rencontre, je voulais vous donner quelques remarques liminaires avant de parler du droit d'auteur pour ce qui est du AFM. Laissez-moi vous parler de l'American Federation of Musicians qui a été établie en 1896 et nous avons plus de 90 membres. Nous sommes la plus importante association au monde qui défend les intérêts des musiciens professionnels, les musiciens de Montréal étaient les premiers Canadiens et Canadiennes à se joindre à la fédération en 1897. Les médecins de Toronto ont eu une adhésion en 1901. Aujourd'hui, représentation diversifiée de plus de 17 000 membres, représentée par 27 sections locales affiliées, dont la direction est élue de façon directe par ses membres. L'AFM, dont le vice-président du Canada est élu par la direction de toutes les sections locales et de ses membres, régit les activités à temps plein de AFM Canada, dont le siège social est à Toronto. Je viens à Halifax ce matin après avoir passé une très belle fin de semaine, après avoir assisté au festival de musique blues Dutch Mason qui a lieu à Truro, en Nouvelle-Écosse, ce qui m'a permis d'être présent aujourd'hui. La direction de la section locale 571 ici à Halifax s'est joint à moi, qui représente à peu près 750 musiciens de la province. Bien sûr, le droit d'auteur et bien sûr, et la réforme de la loi et les consultations actuellement en cours étaient d'une actualité assez brûlante, mais rien ne pouvait nous empêcher de la vraie raison pour laquelle nous et des milliers d'amateurs de musique se sont réunis en fin de semaine. Et c'était simplement pour écouter la musique. Et si nous défendons quoi que ce soit, c'est ça, la musique qui est créée et présentée par des musiciens
doués, connus en Amérique du Nord, beaucoup qui sont en début de carrière et qui ont à faire face avec un ensemble de problèmes très différents, surtout en ce qui a trait aux technologies en constante évolution et la façon dont leur musique sera utilisée et distribuée, et d'autres qui sont anciens combattants depuis bien des années. Il y a la Down Child Blues Band de l'Ontario fêtant leur 40e anniversaire de vie musicale ensemble. Ça touche à ce groupe de façon très différente, mais cela touche à beaucoup de créateurs dans différents moyens. Pour revenir à la AFFM, il y a des contrats négociés en vertu de la loi sur les artistes ou par une reconnaissance volontaire par les membres des employeurs qui nous embauchent. L'Union américaine maintient ce principe de base. Quand les artistes vont travailler comme n'importe quel autre travailleur au Canada, pour n'importe quel but, ces travailleurs doivent être rémunérés de façon juste pour leurs efforts. De plus, la propriété intellectuelle qui en résulte doit être pleinement protégée de réutilisation non autorisée ou nouvel emploi par le simple fait qu'il y a des progrès technologiques qui permet à la contrefaçon de brevets, une activité largement répandue, ne devrait pas brouiller les eaux. Par rapport aux droits d'auteur, elle ne doit pas empêcher, brimer les droits d'auteur de ceux qui sont les détenteurs. Pour ce qui est du droit d'auteur, eh bien, que nous propose l'Union américaine pour promouvoir l'innovation et la créativité, promouvoir la compétition et l'investissement et bien placer le Canada comme chef de file à l'échelle mondiale dans le commerce numérisé. La position de l'Union américaine des musiciens que sans un cadre permettant aux créateurs et aux producteurs d'être justement dédommagés et d'être protégés dans leurs droits, que la créativité et l'innovation pourraient être brimées. Nous proposons de commencer par la mise en œuvre des traités OMPI, le WPPT et les traités. Le Canada a signé ces traités en 1997, mais n'a toujours pas mis en œuvre ces traités. Ceci doit se faire obligatoirement et le plus rapidement possible. En tant que membre de RCC et Neighboring Rights et les droits voisins, nous faisons la promotion de l'expansion de programmes qui permettent à d'autres sources de revenus pour les créateurs, les producteurs et les artistes. Et aussi, on devra augmenter le niveau de créativité. Beaucoup de nos membres participent à des enregistrements sonores, séances à titre de musiciens d'accompagnement ou comme artistes en vedette. Ce modèle a beaucoup avantagé ces artistes-interprètes. Et pour les jeunes artistes-interprètes que j'ai vus à Truro en fin de semaine, il est peut-être essentiel pour eux de décider soit de continuer de jouer de la musique ou de trouver un autre emploi qui leur permette de gagner leur vie et de payer leurs factures. Donc, nous voulons élargir le modèle actuel pour agir les disques durs, les disques provisoires, les MP3, e-téléphone et autres sources d'enregistrement pourraient faire partie de la loi. Pour ce qui est des responsabilités ISP, qui est un sujet d'actualité chaude, nous voulons adopter l'approche avis et enlever pour les autres éléments de licence et de cession. Nous voulons dédommager les artistes interprètes pour l'exécution telle que décrit dans la définition du WPPT. Pour les jeux vidéo, le Canada est au troisième rang au monde après les États-Unis et la Grande-Bretagne, comme étant le plus grand producteur de jeux vidéo avec plus de 250 compagnies qui produisent ces jeux. Nous implorons le gouvernement de consulter ceux qui sont les représentants attitrés de ces musiciens reconnus par FM Canada pour établir les tarifs et un régime de voie de licence pour récompenser de façon juste ces artistes-interprètes pour leur exécution. Enfin, l'AFM propose d'ajouter un libellé qui étend tous les aspects du droit d'auteur tant aux technologies existantes et futures, méthodes de prestation ou de distribution, transmission, diffusion, entreposage et droits de reproduction. Je termine en résumant une idée commune qu'ont les représentants du syndicat et les musiciens membres du Canada. Nous sommes très emballés par les possibilités de ces nouvelles technologies. Et bien sûr, l'AFM Canada est très conscient de ces possibilités et encourage le gouvernement d'accueillir ces nouvelles technologies de façon positive, mais de façon juste et équitable aussi pour les créateurs et les usagers. Et nous croyons aussi, et nous avons l'optimisme, qu'une solution faite au Canada pourra être trouvée. Pour les membres, AFM Canada est la solution pour 17 000 musiciens qui sont détenteurs de leur propre capacité de voter des questions de façon séparée et de façon autonome pour représenter les musiciens du Canada. Sur ce, je vous remercie. Et nous pensons que ces consultations sont très saines et utiles. Merci de vos commentaires, Paul. Passons maintenant à Wendy Noss, l'Association des représentants de distributeurs. Je suis Wendy Noss et je suis la directrice générale de la Canadian Motion Pictures Distributors Association. Le CMPDA représente les producteurs et distributeurs de films, d'émissions de télévision au Canada, en d'autres mots, ceux qui font des films que vous avez regardés cet été plus vieux et qui contribuent à l'industrie ayant une valeur de plus de 1 milliard et demi de dollars, contribuant à plus de 5 millions de dollars en volume de production au Canada, donnant lieu à plus de 130 000 emplois à temps plein. Ces chiffres sont pour la production seulement, mais les avantages économiques de notre industrie vont bien au-delà de la production. Beaucoup d'industries connexes bénéficient de la radiodiffusion, télédiffusion, des milliers de gens qui travaillent dans les théâtres, vente au détail, manufacturiers, radiodiffusion, festival de films et j'en passe. Je reconnais que nous avons seulement un certain temps pour ces remarques liminaires. J'essaierai de m'en tenir au délai que vous m'avez accordé, mais parce que j'ai des commentaires très brefs, ça ne reflète pas l'importance de cette question. Le besoin essentiel de continuer à aller de l'avant dès aujourd'hui avec une loi sur les droits d'auteur qui, de façon robuste et directe, reflétant le consensus international de nos partenaires commerciaux, met en place les traités OMPI pour veiller à décourager les contrefaçons massives en ligne. C'est essentiel pour ceux qui font la création à l'existence d'une industrie de films et de télévision au pays et enfin important pour le consommateur. Vous et le ministre du Patrimoine, votre personnel, eh bien, je vous félicite d'avoir consacré autant de temps pour vous pencher sur une question très importante. Et sachez que dans notre industrie, nous partageons votre objectif que le Canada va devenir le chef mondial du monde numérisé. Et un jour, notre réputation sera autre que celle que nous avons aujourd'hui. Nous serons connus pour des marchés légitimes en pleine vie, en ligne. Avec une infrastructure canadienne, nous devons également l'associer à une infrastructure juridique qui reflète la réalité des droits d'auteur dans un monde numérisé. Avec cette loi à l'avenir, suivant cette consultation, nous espérons que vous verrez au-delà des revendications qui pensent que la réforme du droit d'auteur est un jeu qui tourne en queue de poisson, ce qui a entraîné beaucoup de mythes et de mauvaises conceptions. La réalité et l'expérience autour du monde démontrent que ce n'est loin d'être le cas pour ceux qui créent et qui consomment ces films. Si le Canada a un avantage à être tellement en retard par rapport à la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie et j'en passe, c'est que nous pouvons voir ce qui est arrivé dans ces pays où la conformité au traité de l'OMPI est basée sur des principes de gros bon sens pour établir un cadre qui réduira la piraterie numérisée et faire la promotion de croissance dans ces produits artistiques pour donner des règles prévisibles, justes et équitables qui appuient l'innovation et la créativité, une protection de droits d'auteur stimulant la création intellectuelle et la dissémination de produits culturels. Quand vous entendrez que pour que le Canada mette en place une loi semblable signifie que c'est la fin du monde, qu'on n'aura pas accès au contenu, que les consommateurs en sortiront perdants, je vous propose de regarder ce qui est arrivé dans ces pays pour les consommateurs. Aller au-delà des anecdotes et chercher à regarder ce qui arrive dans le marché. Et c'est qui, où il y a une contrefaçon massive de contenu, ont été éteints et le consommateur dans ces pays, ce consommateur dans ces marchés ont beaucoup plus de choix légitimes et accès aux programmes de télévision et de films en ligne quand ils le veulent pour le dispositif sur lequel ils veulent utiliser et dans le format qu'on veut emprunter. Ces CTC services donnent lieu à tous les choix du consommateur pour regarder la location, télécharger pour appartenir par abonnement et le fait à différents points selon l'accès ou les possibilités de copie que cherche le consommateur. Je ne parle pas seulement de iTunes, mais Amazon, CinemaNow, Blockbuster, Netflix, Juiced, Hulu, Crackle et beaucoup d'autres. L'an dernier, au Royaume-Uni, même Tesco a ajouté nos séries de télévision, d'émissions de télévision et de films aux éléments téléchargés. Ces modèles d'innovation se fient à la technologie. Les mesures de protection technologique qui sont essentielles pour les traités OMPI, pour protéger contre la piraterie numérisée et en même temps permettant aux créateurs de rejoindre le plus grand nombre de consommateurs possible, là, quand et comment ils le souhaitent. Et enfin, en modifiant la loi, j'espère que vous et le ministre Moore iront plus loin pour regarder ce qui se fait dans d'autres pays et les gouvernements où on reconnaît l'avenir de l'économie numérique ont décidé qu'ils ne peuvent pas et ne devraient pas fermer leurs yeux à la réalité de la contrefaçon en ligne, permettant aux ISP de travailler avec les détenteurs de droits pour modifier leur comportement est au cœur de passer des téléchargements inautorisés à des solutions de rechange légitimes. Nous avons travaillé fort pour monter une industrie énergétique en ville. Passant de là où nous sommes à Halifax, où le film Titanic a été tourné, et l'emplacement utilisé pour le film Away from Her, et à Coquitlam, en Colombie-Britannique, où on a tourné le film Juno, et la capacité de cette industrie de demeurer en vie, d'être en santé, de continuer à livrer du contenu aux consommateurs de façon novatrice et intelligente, base d'un cadre qui décourage la contrefaçon de façon massive et encourage le commerce légitime. Un plus grand nombre d'emplois, plus grand nombre de choix et plus de possibilités pour les professions de création. Merci beaucoup et merci d'avoir parlé de ma circonscription, Lake of Bays. Je vous encourage d'aller au moins visiter Perry Sound Muskoka au moins une fois. Et n'oubliez pas que j'ai parlé de Coquitlam aussi. Et oui, ça c'est pour James aussi. C'est beau.
Quelques paroles.
Oui,
merci.
Certainement. Alors, bonjour. Mon nom est Annie Morin. Je suis la présidente du conseil d'administration de la Société canadienne de perception de la copie privée, autrement appelée Canadian Private Copy and Collective, or CPCC. The CPCC is the non-profit.
Le CPCC est l'agence sans but lucratif pour ramasser et distribuer les taux de redevance. Et le CPCC représente également les intérêts de ses détenteurs de droits pour ces questions de copie. le collectif apprécie l'occasion de participer à cette table ronde pour partager nos opinions pour modifier la loi sur la loi sur les droits d'auteur. C'est important. C'est un élément important pendant plus d'une décennie, permet d'avoir le cadre pour les particuliers de faire des copies légales de musique pour le fin personnel et pour ceux qui veulent avoir une récompense.
Oui, ce n'est pas une taxe. C'est un revenu qui ne va pas au gouvernement et qui ne sert pas non plus à financer des services publics. C'est un petit montant qui est chargé aux consommateurs en échange d'un produit, une copie privée de musique qui a une réelle valeur. Si ces copies-là n'avaient pas de valeur pour les consommateurs, c'est pas maintenant, ils n'en feraient pas. Alors, the revenue derived.
Les recettes de ces redevances vont aux personnes qui ont créé cette musique et cette redevance est un moyen permettant aux compositeurs de musique d'être dédommagés pour cet emploi qu'on ne peut arrêter de leur musique.
Relativement petit, on parle de redevance pour la copie privée, qui est prélevée sur les CD vierges ou encore sur les cassettes audio. Le revenu qui est soutiré de ces supports-là est distribué à quelques 100 000 créateurs de musique. Alors, on ne parle pas uniquement de deux ou trois stars importantes de la musique qui reçoivent ces sommes-là. On parle de près de 100 000 ayants droit du secteur de la musique pour les copies privées qui sont faites de leur musique. While this income can...
Tandis que ce revenu peut être assez modeste, la plupart des créateurs reçoivent quelques milliers de dollars ou moins chaque année. C'est quand même essentiel pour la grande majorité d'entre eux, leur permettant de continuer à composer de la musique. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui avec la loi, c'est un problème très direct. Cette redevance ne couvre pas toutes les copies. Les copies privées faites pour les DAR, les éléments numériques ne sont pas couverts par la loi. Puisque on copie au Canada, grâce avec ces dispositifs, les lecteurs MP3 et les iPod, ceci veut dire que les créateurs de musique ne sont pas dédommagés, pas du tout, pour cet emploi populaire de leur musique. Et au fait, de ces 1,5 milliard de copies de musique qui sont faites chaque année, les détenteurs de droits n'ont rien pour les 70 % de ces copies qui sont enregistrées de façon numérique, à moins que les artistes changent cette loi. Ça va changer avec moins de moyens. Copies sont faites sur les CD et les cassettes audio année après année. De plus, avec la disparition des CD et des cassettes, les droits reçus aujourd'hui par ces détenteurs vont disparaître.
Donc, la seule façon de remédier le problème est de modifier la loi sur le droit d'auteur pour tenir compte des technologies qui sont utilisées à l'heure actuelle pour faire des copies privées.
Qui a été effectué en 2006 par la firme dont les services ont été retenus par la Société canadienne de perception de la copie privée. C'était la firme Environix. Et ce sondage-là a montré que 60 % des gens croient fermement que les créateurs de musique devraient recevoir une rétribution lorsqu'il y a des copies privées qui sont faites de leur musique, alors qu'il n'y avait qu'une majorité qui pensait qu'ils devraient être libres de faire toutes les copies qu'ils veulent sans que les créateurs de musique reçoivent quoi que ce soit. Mais la majorité de ces gens-là, effectivement, était en faveur qu'il y ait une rétribution pour les créateurs de musique lorsque des copies privées sont faites. We hope that the next attempt
Il faut donc modifier la loi sur les droits d'auteur afin de protéger les droits des artistes, qu'ils soient récompensés pour l'utilisation de leur travail. Donc, il faut mettre à jour les redevances, il ne faut pas les éliminer, comme certaines personnes ont proposé. Ces redevances permettraient aux Canadiens et Canadiennes de faire les copies qu'ils veulent, mais tout en assurant une indemnisation aux auteurs de la musique. En fournissant ces redevances aux artistes, les écrivains de chansons, etc., cette redevance assure que tous les détenteurs de droits reçoivent au moins une certaine indemnisation pour leur travail. Donc, il s'agit d'établir un équilibre entre le désir des Canadiens et Canadiennes de faire découvrir la musique et les droits des détenteurs d'être rémunérés. Donc, pour maintenir cet équilibre, il faut élargir les redevances pour tenir compte des Digital Audio Recorders, donc pour les détenteurs de droits et pour protéger les consommateurs.
Cette table ronde, et j'ai bien hâte de pouvoir échanger avec les autres collègues également autour de la table quant à ces modifications qui devraient être apportées à la loi sur le droit d'auteur. Merci encore.
Merci, Annie, pour votre contribution. And we'll go now to, is it Ian McKay?
Ian McKay ou McKay? McKay. De la collective des droits voisins. Je suis McKay, président du NRCC. Et si vous ne connaissez pas cet organisme, c'est un organisme sans but lucratif. Et nous représentons des milliers, dizaines de milliers de créateurs et des compagnies pour l'exécution publique de la musique par l'entremise de licences et permis collectifs. Donc, on dépend de ces revenus de plus en plus comme source de revenus avec la diminution de la vente des CD. Ces revenus deviennent une partie essentielle de la rémunération des artistes. On dit que la loi sur le droit d'auteur encourage les nouveaux modèles d'entreprise et des organismes comme le nôtre sont le meilleur exemple de ces modèles. Ça nous permet de suivre des centaines de milliers de microtransactions pour assurer que l'argent soit versé aux créateurs à un coût minime. Et moi aussi, je tiens à remercier le ministre de la possibilité de participer à cette séance. Nous allons faire une présentation écrite et je vous présente les faits saillants ici. On a beaucoup parlé d'équilibre quand on parle des droits d'auteur, mais parfois on ne semble pas comprendre ce que cela veut dire, équilibre. Comme Wendy l'a souligné, on accorde de la protection aux créateurs, mais on dit que cela enlève quelque chose aux consommateurs. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne perspective. Les droits d'auteur encouragent les créateurs à créer, à diffuser leurs œuvres, parce qu'ils savent qu'ils seront rémunérés, et c'est à l'avantage des consommateurs. Et d'autres ont dit qu'il s'agit d'une taxe. Et il semble y avoir une génération de Canadiens et Canadiennes qui croient qu'ils ont le droit de recevoir le contenu sans frais. Moi, j'aimerais bien recevoir la Cablevision sans frais. Je n'aimerais pas non plus payer mon repas au restaurant. Mais vous savez ce qui se produirait. Je pense que lors de la table ronde de Vancouver, on a dit que la loi sur le droit d'auteur doit être raisonnable, que ça doit être perçu comme étant raisonnable. Autrement, on va essayer de contourner la loi, comme si on ne payait pas son impôt. Et je pense que, là encore, c'est la mauvaise perspective. Bon, une loi, il ne s'agit pas de popularité. Il ne s'agit pas nécessairement de ce que veulent les gens, mais il s'agit de permettre à la société de bien fonctionner. Et je pense que c'est très important. À l'échelle internationale, bon, je suis d'accord avec les commentaires faits par les autres participants, il est essentiel d'appliquer les mêmes règles du jeu au Canada qu'ailleurs au monde, et il faut assurer l'exécution des traités. Quant aux commentaires spécifiques, relativement à notre position, le Conseil des droits d'auteur est un organisme très important parce que les licences collectives deviennent un élément beaucoup plus important. Il faut donc un conseil bien efficace. À l'heure actuelle, il faut plusieurs années depuis la demande d'un tarif jusqu'à l'exécution. Et au moment de l'audience, par exemple, ça devient déjà désuet. Et pour ne pas parler de la diffusion sur le web, la technologie avance tellement vite. Et si vous avez un processus où il faut de 3 à 5 ans pour imposer un tarif, c'est déjà démodé. Donc, nous voulons un engagement très ferme de la part du gouvernement par rapport au Conseil des droits d'auteur afin d'assurer l'innovation opportune. Un autre point que je tiens à souligner, qui nous concerne particulièrement, dans l'article 68.1a de la loi sur les droits d'auteur, on parle d'une exemption de 1,25 million pour la radio commerciale. Comme vous le savez, les droits des artistes, bon, cela remonte à 1997. Les écrivains de chansons jouissent de ces droits depuis plusieurs décennies, mais pour les artistes de la scène, c'est beaucoup plus récent. Dans cette loi de 1997, ces droits deviennent nuls parce qu'on dit que les postes de radio commerciaux doivent payer seulement une certaine partie sur la première tranche de 1,25 million. Cette exemption ne s'applique pas aux écrivains de chansons. Donc, il s'agit de différents créateurs de la même œuvre qui sont traités de façon différente. Ça semblait être une transition et ça a été mis en vigueur avant l'évolution qu'on voit depuis 10 ans. La radio commerciale a réalisé des bénéfices records, mais on a vu une chute de la vente de musique enregistrée. Donc, nous sommes d'avis que cette exemption de 1,25 million subventionne de façon injuste la radio commerciale au détriment des artistes. Et pour vous donner une idée de ce que cela signifie en termes concrets, nous prévoyons que cette exemption de 1,25 million coûte aux artistes 60 millions de dollars sous forme de redevances perdues depuis 1993. Donc, nous sommes d'avis qu'il faut supprimer cette exemption de la loi sur le droit d'auteur pour appliquer les mêmes règles du jeu à tous les intervenants. Merci. Nous passons maintenant à Paul Taylor de la International Alliance of Theatre. Je suis Paul Taylor et je suis représentant national de l'Alliance internationale des employés de la scène. Les artistes et les métiers associés. Il s'agit des territoires du Canada. L'acronyme, c'est l'IATSE. Et on nous s'appelle IATSE ou IA. IATSE a été créé en 1993-98 au Canada. Et nous comptons plus de 125 000 membres, dont 16 000 au Canada. Donc, c'est le syndicat le plus important de l'industrie. Nous représentons des travailleurs dans plusieurs métiers. La plupart sont employés dans le domaine de la télévision et du cinéma. Nos membres sont essentiels à la production et à la diffusion des films et des émissions de télévision. Nous représentons les travailleurs, pas les acteurs, les producteurs, les directeurs. Nous représentons les hommes et les femmes ordinaires qui gagnent leur vie dans l'industrie de la télévision et du cinéma. Nos membres comprennent les hommes et les femmes qui travaillent sur les grandes productions des États-Unis comme X-Men à Vancouver et Mummy 3 à Montréal. Et ils travaillent aussi sur la production des émissions comme Trailer Park Boys ici à Halifax et Corner Grass à Regina. Et concernant le débat sur la réforme des droits d'auteur, on parle souvent des sociétés, du lobby de la musique, etc., de Hollywood. On parle des distributeurs, des créateurs, des artistes, des consommateurs. Mais on ne parle pas souvent des intérêts de nos membres, les hommes et les femmes ordinaires qui travaillent dans ces industries, mais qui sont menacés par la piraterie numérique. Et à part les interprètes, les vedettes bien connues, les travailleurs peuvent s'élever à 200 ou à 2000 employés. Des travailleurs qui sont vraiment essentiels afin de réaliser les films et les émissions. Nos membres aux États-Unis dépendent des paiements afin de financer leurs avantages sociaux ou leur retraite. Donc, que l'on parle de la piratie, des DVD, etc., cela coûte à nos membres des centaines de millions de dollars. Et l'impact sur les membres canadiens se voit dans la piratie et la menace proférée à notre industrie, parce qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi pour nos travailleurs. Ils dépendent d'une industrie saine pour gagner leur vie. Et quand l'industrie souffre à cause de la piratie, quand les films ne sont pas tournés à cause de la piratie, nos membres en souffrent parce qu'ils se retrouvent sans travail. En 2005, la piratie a coûté 6 milliards de dollars. Une étude récente démontre qu'en 2005, la piratie a coûté à l'industrie américaine plus de 141 000 emplois et 5,5 milliards de dollars en revenus perdus. Donc, notre organisme écarte la notion que la piratie est un crime sans victime. C'est une réalité qui ne va pas disparaître, mais nous croyons qu'il s'agit là de vol. Nous sommes d'accord avec l'industrie de la musique et avec les autres intervenants. Il faut une bonne loi pour lutter contre la piratie. Nous sommes d'accord avec une loi qui se conforme au traité, au MPI, y compris la protection des TPM. Et toute nouvelle loi doit comprendre un cadre juridique bien solide, expliquant la responsabilité des fournisseurs de services en ligne pour protéger contre la contrefaçon des droits. Et il faut un moyen efficace pour mettre fin à la diffusion de matériel. Nous croyons que le système d'avis n'est pas suffisant et nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui disent que ce système a réussi. Et enfin, nous sommes d'accord avec une loi prévoyant des dispositions d'avis aux droits d'auteur permettant aux détenteurs de droits d'avoir un moyen efficace de mettre fin à la contrefaçon en ligne. Au nom de l'IATSE, je vous remercie de cette occasion. Merci. J'ai mal compris le nom de votre organisme au départ. Dan, de Nimbus Publishing. Je suis Dan Sokup, de Nimbus Publishing, la plus grande maison de publication de livres au Canada Atlantique. Il y a 25 maisons de publication professionnelles au Canada Atlantique, un autre 200 à travers le Canada. Nous représentons plus de 400 auteurs actifs au Canada Atlantique et 3000 auteurs actifs dans la région. Nous passons à des plateformes numérisées. Nous sommes peut-être le dernier domaine à le faire. Mais nous nous dirigeons vers ce type de publication et nous, les auteurs du Canada Atlantique, nous recherchons un régime de protection des droits d'auteur juste et équitable permettant de soutenir notre nouveau modèle d'entreprise que nous sommes en train d'élaborer, nous permettant de continuer à produire du contenu. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Tout simplement que nous recherchons un régime juste et équitable. Merci. Merci de votre commentaire. Gérald était là. Donc, M. Keenan, à vous la parole. Merci, M. le ministre. Je suis Brian Keenan, qui est représentant ACTRA, Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists. Nous sommes un organisme sans lucratif. Nous comptons 21 000 membres à travers le Canada, des membres locaux anglophones qui travaillent dans le domaine du cinéma, de l'enregistrement sonore, des médias numérisés. Nous avons un régime d'adhésion. Les membres de l'exécutif du Conseil national sont aussi des artistes canadiens. Et cela étant dit, je vous assure que nous consultons nos membres qui travaillent avec nous sur une base régulière. Ils nous disent qu'ils veulent une loi juste et équitable leur permettant d'être rémunérés quand ils choisissent de le faire ou ils peuvent avoir recours en cas contraire. On a demandé au moment pourquoi la réforme de la loi est pertinente. C'est une occasion d'assurer que les interprètes sont bien rémunérés pour leur travail en tant qu'artistes audiovisuels. Ils ont le droit de protéger leur travail, leurs images, tout comme les interprètes à travers le Canada et au Royaume-Uni, au Royaume-Uni et en Europe. Donc, nous voulons que le travail soit consommé par l'entremise de plateformes variées, mais normalement, on ne peut pas se permettre de travailler sans être rémunéré, à moins qu'ils ne choisissent de le faire. Il faut des lois justes et équitables qui tiennent compte des droits des consommateurs et des droits des artistes et interprètes. Dans un monde de plus en plus numérisé, une loi efficace va assurer la protection des droits d'auteur et le renforcement de ces droits. Nous allons faire une présentation écrite, mais je vais souligner les quatre points saillants. Et comme mes collègues l'ont déjà souligné, il faut mettre en vigueur le traité de l'OMPI sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes. Nous devons moderniser nos lois pour respecter les normes internationales. Donc, il faut exécuter les traités déjà signés. La loi canadienne doit offrir aux interprètes canadiens toute une gamme de possibilités. Il faut assurer la protection des droits moraux. Il faut établir ces droits dans le cadre de l'OMPE. Ça n'a aucun sens que d'avoir moins de droits que dans d'autres domaines. Il faut donc encourager des industries créatrices et viables. Beaucoup de pays européens ont déjà ces droits. L'ACTRA ne demande pas un dédoublement de paiement. Cependant, quand il y a des conventions collectives, c'est la convention collective qui devrait l'emporter. Mais on devrait avoir le droit de négocier des droits ou les recevoir en vertu des redevances. Il faut respecter la valeur des créations. C'est vrai pour tout interprète, que lui ou elle soit interprète international ou interprète débutant. Nous courons beaucoup de risques. Nous courons le risque d'endommager l'industrie par rapport à nos collègues dans d'autres pays. Donc, il faut quand même payer les factures à un moment donné. Deuxièmement, comme mes collègues du CPCC et la FEM l'ont souligné, une bonne loi sur la protection des droits d'auteur est essentielle. Ce modèle est l'excellent cadre permettant à tous les créateurs d'être rémunérés pour leur travail. Nous vous encourageons à mettre à jour le régime de protection des droits d'auteur pour que cette loi s'applique à toutes les technologies utilisées par les Canadiens et les Canadiennes pour faire des copies privées afin de bien rémunérer les créateurs. Les mini-disques, les cassettes, les CD deviennent désuets. Donc, moins d'argent est versé aux créateurs. Encore une fois, nous soulignons que les créateurs veulent que leur travail soit consommé. On veut permettre des copies sur différentes plateformes, mais avec rémunération juste et équitable. Il faut que le revenu soit versé aux artistes, peu importe l'évolution des médias numériques. Troisièmement, il faut des pénalités très importantes pour la contrefaçon. Parce qu'il y a des créateurs qui ne veulent pas travailler sans être rémunérés. Des copies privées qui ne sont pas payées nuisent au test. Il faut un cadre juridique permettant la protection des créateurs, mais aussi l'accès des consommateurs. Et cela va permettre d'assurer l'innovation et permettant à nos créateurs de continuer à créer. Il faut aussi des modalités prévoyant des plaintes. Si le travail est offert en ligne sans autorisation, mais ce n'est pas aux fournisseurs des services Internet de déterminer la qualité de l'affaire. On semble croire que les droits d'auteur protègent les grandes entreprises, mais de la perspective de l'ACTRA, nous voulons assurer que les créateurs, les interprètes puissent bénéficier de leurs œuvres. Il faut donc des lois qui protègent les œuvres des artistes. Il ne serait pas nécessaire d'opter le modèle américain, on devrait se tourner vers le modèle européen plutôt, qui met l'accent sur le droit d'auteur, mais il faut une loi faite au Canada. Il y a des lois comme celles qui s'appliquent à Napster, mais il faut mettre à jour ces lois afin d'assurer un bon équilibre pour les créateurs et les consommateurs. Merci, M. le ministre Clément, pour votre temps et merci au personnel du gouvernement. Merci de vos commentaires, ils sont très utiles. Merci, on passe à l'autre côté de la table, Barry. Barry Sukman, je suis partenaire du cabinet d'avocats McCarthy Tétro et je suis professeur de droit d'auteur à Osgoode Hall. Et j'écris sur la question du droit d'auteur depuis une vingtaine d'années. Et tout récemment, j'écris au chalet à une heure de votre circonscription, Monsieur le ministre. Voilà. Et pendant ces 20 années, j'ai représenté les utilisateurs, les intermédiaires, etc., mais les opinions que je vous exprime aujourd'hui sont mes propres opinions, à la suite de mûres réflexions. Monsieur le ministre, nous sommes au carrefour. Nous devons maintenant décider quels sont nos objectifs pour l'industrie ou les industries culturelles et adopter des politiques nous permettant d'atteindre ces objectifs. On peut les soutenir en adoptant des politiques efficaces ou on peut les laisser disparaître graduellement. Mais à mon avis, on devrait suivre le modèle du Royaume-Uni, qui est un centre national de l'industrie relativement aux initiatives dans ce domaine. Le gouvernement du Royaume-Uni s'est fixé un objectif de réduire la piraterie de 70 à 80 %. Et le Royaume-Uni a proposé des politiques réalistes afin d'atteindre ces objectifs. Nous devrions nous fixer des objectifs semblables pour établir un tel cadre au Canada. Comme vous l'avez demandé, Monsieur le ministre, je vais vous fournir mes meilleurs conseils quant à la façon de procéder. Je pense que nous devons mettre en vigueur un système d'avis, de préavis, soutenu par une loi en tenant compte des droits de tous les intervenants, mais en adoptant un processus graduel comme on fait au Royaume-Uni en Australie. Au Royaume-Uni, on a déterminé que 76 % de la piraterie prendrait fin si on avait un régime d'avis ou de préavis avec sanctions. Et si on met en vigueur un système de réaction graduel, cela ferait augmenter les revenus et les impôts de centaines de millions de livres. Ceux qui s'opposent à cette réaction graduelle disent que le régime est draconien. Mais les propositions proposées par la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni sont mal représentées. On dit que c'est un système draconien, mais ce n'est pas le cas. Ces régimes prévoient des recours flexibles et qui n'empêchent pas l'accès par les utilisateurs. Et on devrait aussi mettre en vigueur un système d'avis et de takedown. Donc, avis et takedown, c'est très efficace dans le cas d'infraction et c'est complémentaire au système d'avis et devis ou de préavis. Donc, j'ai beaucoup d'expérience avec les détenteurs des droits qui ont eu des problèmes et je peux vous dire que quand ils ont des problèmes, ils sont vraiment ravis que le problème survient sur un serveur américain parce qu'ils ont là des recours. Donc, on dit que ça prive les consommateurs de la procédure équitable. Mais quel est le point de comparaison? On parle d'avis et de takedown parce que les fournisseurs de services ne suppriment pas le contenu et sont passibles d'accusations de contrefaçon, mais le processus n'est pas officialisé au Canada comme dans d'autres pays. Un tel régime permettrait de protéger ceux qui affichent du contenu en précisant le cadre juridique spécifique qui s'applique. La Cour suprême, dans une affaire concernant le tarif 22, recommande que le Canada adopte un processus d'avis et de takedown en parlant de recours efficace pour décider quel contenu devrait être supprimé des sites Web. Une étude menée par Industrie Canada détermine qu'un tel régime d'avis et de takedown permettrait d'équilibrer les droits des utilisateurs et des auteurs ou des créateurs. Il faut aussi des mesures en vertu des traités qui se conforment aux normes internationales. Les critiques des TPM disent que ce n'est plus nécessaire dans l'ère numérique. Mais, Monsieur le ministre, ils ne se rendent pas à l'évidence. Les critiques disent aussi qu'il existe beaucoup de souplesse par rapport à l'exécution des traités. Ils disent, par exemple, qu'on peut interdire de contretourner seulement pour les fins de contrefaçon. Mais aucun pays qui n'a mis en vigueur les traités, ni même pas le Danemark, n'a adopté cette façon de faire. De toute façon, ces formes anorexiques d'exécution ne soutiennent pas l'objectif de la politique du commerce électronique. Donc, à quoi bon mettre en vigueur la protection des TPM qui ne serait pas efficace? J'ai quelques brefs commentaires à faire sur les exceptions. Comment procéder dans ces cas-là? Je crois qu'il faut protéger les fournisseurs de services Internet. Donc, il y a le projet de loi C-61 et il faut modifier les dispositions. Les dispositions sont tellement larges, mais cela aurait pour effet de rendre légal le partage de tout fichier TPT sur Internet. On parle de l'exception d'utilisation équitable. Cette exception existe dans quelques pays seulement, mais on dit que c'est une solution magique, neutre. On demande des exceptions spécifiques dans certains cas, mais dans certains cas, on remplace un problème par un autre. On a beaucoup écrit sur les problèmes d'utilisation équitable, y compris une étude menée par Industrie Canada. À mon avis, il ne serait pas sage de résoudre le problème posé par la technologie numérique en adoptant une exception qui s'est avérée problématique, sans étudier les conséquences d'une telle approche. À mon avis, le gouvernement devrait suivre la pratique actuelle. On devrait tenir compte de chaque exception, appliquer un test à trois volets. Donc, cela permettrait un cadre solide permettant d'examiner les exceptions. On permet les exceptions dans des cas spéciaux qui sont très étroits, mais c'est fondé sur un bon raisonnement, sur une bonne politique qui ne mine pas le marché actuel ou futur. Et en terminant, le Canada est un carrefour concernant les droits d'auteur. Et je pense que nous devons suivre le modèle de nos partenaires commerciaux. À savoir que les droits d'auteur peuvent encourager un marché dynamique pour les produits culturels, un marché qui se fixe des objectifs spécifiques soutenus par des lois et dispositions spécifiques. Ne pas adopter cette voie, ne pas la suivre, serait tragique pour tous les intervenants, y compris les créateurs et les utilisateurs. Merci, Monsieur le ministre. Merci.
Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à tous les invités ici à Halifax. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Marc Pilvaux. Je suis avocat avec le cabinet de Stuart McKelvey. Je suis aussi musicien. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le domaine des droits d'auteur. Je ne parle pas aujourd'hui au nom de Stuart McKelvey. Je ne parle pas au nom de leurs clients ou de groupes de lobby. Je n'ai aucune remarque préparée. Over the last 15 years,
au cours des 15 dernières années, j'ai travaillé dans le domaine du droit. J'ai représenté musiciens, sculpteurs, compositeurs, développeurs de logiciels, photographes et autres. Ainsi, je m'y connais un peu dans le domaine du droit d'auteur, des antécédents et l'histoire. Je n'ai pas de remarques préparées et je ne parle pas au nom de mon cabinet. Cependant, s'il y avait une chose à recommander au groupe qui veut modifier la loi sur le droit d'auteur, c'est que nous devons traiter de voleurs, de pirates et de criminels les jeunes adolescents du Canada. Et peu importe la solution que propose le gouvernement, nous espérons que cette façon de traiter les gens sera révolue. Je connais beaucoup de musiciens et je sais qu'il est un vocabulaire malencontreux, souvent emprunté
je ne prends ni pour l'un ou l'autre groupe, mais beaucoup de gens me disent, eh bien, vous êtes avocat dans le domaine des droits d'auteur. Est-il illégal de faire ceci? Donc, ce que nous devons faire de la loi, c'est d'abord définir pour le Canadien ou le moyen, la plupart du temps au niveau de l'adolescent, ce qu'on entend par criminel, pirate ou voleur, parce que c'est un langage qui fait baisser le ton du débat. Nous voulons promouvoir les intérêts de la société, le savoir, les droits des usagers, et trop souvent, ces intérêts-là sont amoindris. Le vocabulaire qu'on utilise, c'est de parler de piratage, de piraterie, où le langage, où ils sont traités comme des criminels. Si on peut éviter d'utiliser ce vocabulaire-là, beaucoup d'usagers de droits d'auteur peuvent se prévaloir de leurs droits sans être traités de criminels. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup de votre contribution à cette discussion. Johnny Stevens, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Clement. Je suis Johnny Stevens. Je travaille avec Music Nova Scotia, promoteur et défenseur. Nous représentons 1200 membres et musiciens et membres de l'industrie dans la province. Je ne savais pas que j'allais assister à cette rencontre il y a une heure. J'aurais mis mon complet et préparé des commentaires par écrit, mais merci de l'invitation. Vous savez, c'est un sujet d'actualité brûlante chez nous. Nous en parlons tous les jours et j'enseigne un cours au Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. J'enseigne un cours sur le droit d'auteur. J'ai quelques commentaires de Scott Wall, directeur général, qui n'a pu assister. Music Nova Scotia appuie la gestion des droits numériques afin que tous ceux qui sont les créateurs peuvent avoir une part des redevances pour leur propriété intellectuelle. Nous n'appuyons pas la poursuite générale du consommateur. Ceci va à l'encontre des résultats. Nous voulons imposer des frais aux fournisseurs de services Internet et ailleurs. Et nous avons visité partout dans le monde. Nous sommes allés en Allemagne, au Royaume-Uni, en Islande et aux États-Unis pour examiner la question. Nous avons vu des façons novatrices de traiter de ces questions dans ces pays. Cette question de droits numériques et la gestion de ces droits. Il y a des compagnies qui utilisent les fonds de rétention du client du consommateur et les fonds de marketing pour défrayer les coûts de téléchargement légal. Ça fait partie du service acheté. Et nous appuyons tout ce qui défraie ou tout ce qui dédommage les créateurs. C'est nécessaire. Nous pensons qu'il y a un problème avec la distribution de redevances. Musique, films, droits de publication. Plusieurs secteurs sont touchés par ces éléments. Donc, la distribution de redevances et de droits, c'est question, nous n'avons pas la solution. La distribution de fonds aux artistes est un artefact très important. Et c'est tout. Donc, nous allons présenter un commentaire par écrit. J'aurais dû vous dire d'emblée que nous vous encourageons d'ailleurs tous les groupes à nous présenter des exposés. Si ce n'est pas disponible à la table ronde, ça va. Vous pouvez les afficher en ligne après coup. Merci beaucoup d'être venu. Marion Hebb, de Hebb et Stephen. Schaeffer, pardon. Bonjour tout le monde. Je suis Marion Hebb, avocate en pratique privée, et depuis 30 ans, je suis conseillère auprès d'auteurs et associations d'auteurs, y compris une collective, auteurs et maisons d'édition, par rapport aux questions des droits d'auteur et autres préoccupations. Le projet de loi C-61 a étonné, mais n'a pas choqué les auteurs avec ses modifications. Un livre, une revue peuvent être téléchargés de l'Internet ou de grande partie par un particulier sur une variété de dispositifs à des fins personnelles, à moins que cela puisse entrer un contrat ou contournerait une mesure technologique. Le C-61 avait également une disposition permettant aux bibliothèques sans but lucratif de livrer des articles sur Internet à ceux qui vont à d'autres bibliothèques. Cette livraison par Internet serait un grand avantage pour
les usagers de bibliothèques et ça comprend aussi les écrivains. Avec cette prestation gratuite constitue un énorme problème pour les auteurs qui doivent être payés pour le travail afin qu'ils puissent continuer à en produire. Aux États-Unis, de grands livres de bibliothèque seront rendus disponibles en bibliothèque grâce au programme Google Book Search qui donne accès libre dans les bibliothèques publiques et accès par abonnement dans d'autres bibliothèques et pour d'autres établissements. Les abonnés des bibliothèques canadiennes s'attendront à rien de moins. En réponse aux éducateurs qui demandent accès à des documents publics par Internet, le BC61 a offert une exception pour les écoles qui affichent des documents qui ne sont pas protégés. Personne ne veut se plaindre de cette accessibilité ou ces moyens d'avoir accès aux œuvres par Internet. Et pas beaucoup d'écrivains professionnels, mais ces écrivains s'inquiètent, ils ne veulent pas payer pour le matériel breveté téléchargé et pensent que tout ce qu'on trouve sur Internet doit être gratuit. Moyens de donner ces documents, soit pour abonnés ou étudiants, sont des méthodes choquantes. Ce qui serait choquant, c'est que si cela arriverait sans dédommager les auteurs de ces œuvres, les auteurs doivent être payés pour tous les usages en bibliothèque et à l'école et cherchent la façon de monnayer ce qui se passe à l'Internet. Par Internet, on peut copier toutes sortes de choses. Il n'est pas possible pour un particulier de suivre tout ce qui se fait par rapport à ses œuvres par Internet, mais les collectifs qui représentent beaucoup de détenteurs de droits d'auteur peuvent protéger leurs intérêts collectifs tout en offrant des licences permettant accès facile à leurs œuvres aux écoles, aux bibliothèques et à d'autres qui défraient les paiements aux auteurs. Les sociétés de collectivité représentant les auteurs, maisons d'édition et aux détenteurs de licences pour les œuvres distribuent les paiements aux détenteurs de droits basés sur les sondages d'utilisation. Les sociétés accordent une licence ouverte n'exigeant pas qu'on vérifie la liste des détenteurs de droits avant d'avoir recours à ces œuvres. Ceci donne lieu à un risque de poursuite par rapport aux œuvres de ceux qui ne sont pas représentés par ces groupes d'auteurs. Ces risques sont d'autant plus grands dans un monde numérisé, donc il nous faut un nouveau mécanisme pour limiter la responsabilité pour la collective et tous les usagers détenteurs de licences. Ces détenteurs de licences évitent le besoin d'avoir des exceptions. D'autres exceptions peuvent s'appliquer là où une licence collective n'est pas disponible. Une exception que voudraient voir les écrivains, c'est une exception pour les parodies. Ceci est justifiable parce qu'un écrivain ne va pas accorder une licence à un autre écrivain pour rire de son œuvre. La collective a fonctionné bien par le passé. Et c'est un modèle qui peut être utilisé pour l'Internet. Ceci veut une petite augmentation d'abonnement payable par les abonnés aux fournisseurs de services Internet pour copier le matériel qui peut être téléchargé de l'Internet. Cet argent sera distribué aux écrivains et autres détenteurs de droits. Chacun aurait accès facile et légal au matériel de l'Internet, mais les écrivains et d'autres détenteurs de droits seraient dédommagés. Merci beaucoup. Merci, Marion. J'en suis très reconnaissante. On en est au dernier participant, Don, pour l'Association des compositeurs. Merci. Je suis Don Quarles. Je suis le directeur général de la Songwriters Association of Canada, la seule association sans but lucratif qui représente et qui est dirigée par les compositeurs. Nous fêtons notre 26e anniversaire cette année. En passant, mon épouse de 25 ans est née et a été élevée à Perry Sound. Je vois les tendances qui se dessinent, dit M. Clement. Vous et M. Moore avez entendu de notre vice-président Bill Henderson à la table ronde de Vancouver et qui a avancé les points suivants sur le partage de dossiers. Les experts de l'Internet s'entendent pour dire que le partage de dossiers sans autorisation ne peuvent être empêchés sans fermer accès à l'Internet. Et deuxièmement, même si nous appuyons les droits d'auteur, Nous voyons que le partage de dossiers est une occasion rêvée pour les créateurs. Troisièmement, le partage de dossiers est la façon la plus efficace de distribuer le plus grand répertoire de musique jamais rassemblé et disponible à tout le monde. Quatrièmement, le seul problème avec le partage de dossiers, c'est que les créateurs et les détenteurs ne sont pas rémunérés. Et cinquièmement, nous avons un plan pour légaliser le partage de dossiers pour que tout le monde puisse en sortir gagnant, y compris le consommateur et les compositeurs. Voici quelques détails pour expliquer comment l'argent sera ramassé et distribué aux compositeurs et détenteurs de droits. Tout ce qui est nécessaire pour monnayer ces partages de dossiers, c'est un frais qu'on peut ajouter aux frais demandés par les fournisseurs de services ou accès mobile ou facturer mensuellement un carte de crédit. Quelques cents par jour, représentant quelques dollars par mois, créerait une mise en commun de plusieurs centaines de millions de dollars par année. Le frais serait déterminé par le Conseil de droit d'auteur après avoir entendu tous les participants, y compris le consommateur. Ce fonds serait distribué de façon prorata aux détenteurs et aux créateurs, un peu comme les collectifs comme SOCAN le fait aujourd'hui. Les renseignements pour en faire une distribution et ramasser sans porter atteinte à la protection des renseignements privés par les tiers comme une compagnie en Californie qui s'appelle Big Champagne. Cette distribution entraînerait une remise en santé, un regain de santé pour l'industrie de musique. C'est bon pour toutes les parties prenantes, tous les détenteurs de licences et de droits et l'idée de poursuite contre les consommateurs de musique serait un temps révolu. Au cours des deux dernières années, nous avons communiqué ces idées aux défenseurs de consommateurs et autres associations au Canada et nous avons leur appui. Beaucoup de maisons d'enregistrement au Canada, maisons de disques se rangent derrière nous. Ils savent que ce plan simple et élégant est la seule solution à ce problème qui a vexé notre industrie depuis maintenant 10 ans. Cette proposition va encourager l'innovation, la créativité et augmenter l'économie créative au Canada. Il est important de noter que non seulement cette proposition est importante pour les compositeurs, détenteurs de droits et ceux d'entre nous qui sont consommateurs et amateurs de musique, mais aussi se conforme au MPI. Cette conversation n'est pas là pour expliquer pourquoi nous devons se payer. C'est quelque chose qui existe depuis bien des années, bien des décennies, mais comment nous devons être dédommagés? Nous demandons que le gouvernement canadien travaille avec nous pour contrôler ce résultat. Et merci au nom du compositeur et au nom de l'Association canadienne. Merci, Don. Merci de ce que vous avez contribué à la discussion. Et le dernier, mais non le moindre. Merci, M. le ministre. Je suis Michael Pelliot et je suis avocat pour Microsoft au Canada. Je reconnais la possibilité de participer à cette table ronde et de partager avec vous le besoin de réformer les droits d'auteur. Microsoft se fie à des régimes forts et stables dans les pays où il fonctionne pour protéger ses grands investissements en innovation. Microsoft est d'avis que l'innovation est essentielle pour améliorer la société, est essentielle à la conjoncture canadienne. Étant donné l'importance des droits d'auteur, il est décevant que le Canada ait signé l'entente OMPI et n'a toujours pas mis en œuvre ce traité. Les dispositions clés pour assurer la protection des technologies, des artistes et des créateurs et ceux qui travaillent dans ces industries et qui ont été identifiés comme étant importants il y a 2 ans, ces choses-là n'ont toujours pas été adoptées. Nous étions heureux du dépôt du projet de loi C-61, qui était une nette amélioration par rapport au projet de loi C-61, une approche équilibrée pour encourager les créateurs d'utiliser des contenus novateurs et en donnant aux consommateurs du Canada des exceptions pour leur permettre de faire une utilisation raisonnable de certains éléments à des fins privées. Pour la réforme du droit d'auteur, Microsoft ne préconise pas de changements révolutionnaires. Les changements que nous appuyons sont des changements qui sont déjà nécessaires en raison des traités OMPI et changements qui ont été discutés depuis bien des années et qui, d'une forme ou d'une autre, ont fait partie des derniers projets de loi de l'OMPI. Je vais vous parler de quelques grandes préoccupations par rapport à Microsoft. D'abord, mesures de protection technique. Les traités OMPI exigent que les signataires
offre des remèdes légaux pour contourner la technologie. Le guide de l'OMPI pour ces traités déclare que ces traités ont besoin de remèdes efficaces pour le contournement de contrôles d'accès et mesures de copiage. Ces technologies permettent d'imposer des conditions pour son usage, d'imposer un frais pour écouter ou regarder l'œuvre ou d'établir des permissions pour un certain nombre d'usages pour un certain récipient. Ce sont les nouveaux modèles novateurs dont Wendy a fait mention. Et ces modèles, comme le service d'abonnement, téléchargement, location et autres modèles futurs, sont habilités par des mesures de protection et sont faisables seulement si l'intégrité de ces contrôles est respectée. Le Canada devrait adopter des mesures fortes et efficaces pour empêcher le contournement par accès et les éléments de copie pour les limites de responsabilité. Ces dispositions sont importantes pour l'adoption de services novateurs sur Internet. Cependant, il faut rédiger ces dispositions soigneusement afin de veiller que les exceptions ne soient pas tellement larges pour comprendre des activités qui soient vues comme étant illégales. Barry en a parlé dans ses commentaires parce qu'il a parlé du projet de loi 61.
À l'avis de Microsoft, les fournisseurs de services Internet vont profiter des services qui facilitent la communication, par exemple des fournisseurs de logiciels qui aident les utilisateurs à retrouver des fichiers de musique, etc. Ils ne devraient pas être admissibles à des exemptions. Il faut bien élaborer les solutions sur ces différents aspects. Pour ce qui est de contrefaçon, pour des fins privées, il devrait s'agir d'un total de 500 $. Il faudrait plafonner à ce moment-là pour équilibrer les droits des créateurs et des utilisateurs. Ce plafond serait peut-être approprié où la valeur de l'œuvre qui fait l'objet de la contrefaçon est de moins de 500 $. Donc, le plafond s'appliquerait à la musique ou à des films, mais si la valeur de l'œuvre dépasse 500 $, et s'il s'agit par exemple de logiciels, il n'y aurait pas d'effet de découragement. Microsoft Canada propose ce type de plafond en tenant compte de la valeur de l'œuvre. Et en terminant, le Canada est considéré comme étant un pays qui fait preuve d'innovation. Nous croyons qu'une force assurant la réussite économique à l'avenir serait la possibilité d'innover. Une des conditions permettant d'encourager l'innovation, c'est la mise à jour de notre régime des droits d'auteur pour refléter la réalité du monde numérisé. Au nom de Microsoft, je vous remercie de l'occasion d'exprimer nos opinions et de participer à cette table ronde. Merci Michael, merci à tout le monde d'avoir participé à cette table ronde. C'est très intéressant, en effet. Il y a eu un grand nombre de présentations sur la perspective des créateurs, beaucoup plus que lors d'autres tables mondes. C'est bien avoir ce mélange. Et je vous remercie de votre participation. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Nous permettant de commenter les différentes communications ou quelque chose qui découle des autres communications. Des commentaires que vous voudriez faire peut-être parce que vous avez entendu un commentaire pour la première fois, quelque chose que vous n'avez pas inclus lors de votre communication. C'est à vous la parole maintenant si vous avez des commentaires à ajouter. Bon, c'est une table ronde des Canadiens et des Canadiens. Nous allons faire preuve de politesse. Mais s'il y a quelque chose qui pique votre intérêt, un commentaire pour les faire, c'est à vous la parole. Bon, j'ai un commentaire. Barry, lors de votre communication, vous avez parlé de l'utilisation équitable. Et je pense que c'est la première fois qu'on soulève la question lors de cette table ronde. lors de cette table ronde ici à Halifax, mais on a entendu des commentaires sur la question lors d'autres tables rondes. Donc, je me demande si les autres participants voudraient réagir à ce commentaire de Barry sur l'utilisation équitable. Ou si vous me permettez de résumer quelque chose que vous avez dit, vous avez prévenu que ce n'est pas une panacée, que ce n'est pas la solution magique. Que les autres participants aux autres tables rondes ont proposé. Donc, y a-t-il des commentaires sur l'utilisation équitable? Oui? Bon, en tant que maison de publication de livres, la question est souvent soulevée, surtout dans le contexte de l'éducation. Et on a l'impression que c'est vraiment... il n'y a vraiment pas de règles. On semble avoir l'impression bon, les gens dans le domaine de l'éducation ont l'impression qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Merci. Bon, si vous me permettez de t'enchérir, je dois tenir compte du temps. Mais le problème, c'est que c'est ouvert, c'est vague. Et ça laisse les utilisateurs dans la confusion. Et il y a des coûts juridiques énormes associés à cela pour savoir ce qui est légal ou non. Ça a du sens peut-être aux États-Unis où il y a des groupes qui peuvent dépenser des millions de dollars, mais la situation n'est pas la même au Canada. Ça pourrait poser un problème assez important. Il y a un savant américain qui dit « Bon, la doctrine est mal définie et vide. » Au pire, de façon abstraite et concrète, l'utilisation équitable n'a pas réussi. Quand il s'agit d'appliquer la théorie des droits d'auteur, c'est trop vague et ça n'a pas de valeur spécifique. Donc, je voulais tout simplement souligner qu'il faut faire attention avant de faire quelque chose, parce que il y a beaucoup de confusion dans le pays où c'est en vigueur. Il faudrait étudier la question en ajoutant des exemples, par exemple. Paul, vous avez un commentaire à faire? Quelqu'un d'autre? Bon, monsieur le ministre, nous avons l'utilisation équitable au Canada. Mais quand les clients communiquent avec nous, quand ils communiquent avec les avocats par rapport à la question, on consulte la jurisprudence. Et peut-être qu'il faudrait peut-être codifier ces cas dans la loi. Il faut beaucoup plus de précision. Oui, merci de votre commentaire, Marion. Oui, l'utilisation équitable semble fonctionner. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. On semble comprendre l'utilisation équitable et on semble tirer les bonnes conclusions. Bon, je pense qu'il y a 4 buts ou 5 buts dont on parle dans le cas de l'utilisation équitable. Mais si on ouvre cela à l'éducation, à l'apprentissage, il y aurait beaucoup de confusion. Il serait difficile de savoir ce qui serait couvert par les... licence collective, ce serait une boîte à Pandore. Et je propose de laisser les choses comme elles sont à l'heure actuelle. Ou s'il faut une exception, et je l'ai mentionné quand j'ai fait des commentaires sur la parodie. Bon, c'est important. La parodie est permissible, même s'il y a des gens qui croient que ce n'est pas le cas. Mais une personne qui fait une parodie... intelligente n'a pas de problème. Et je pense qu'on devrait laisser les choses comme elles sont à l'heure actuelle. Oui, nous sommes tout à fait d'accord avec les commentaires de Marion, de Mark et de Barry. Bon, adopter l'approche américaine quant à l'utilisation équitable. Bon, ce serait difficile. Je pense qu'on devrait s'en tenir à la situation canadienne en tenant compte des cas qui ont déjà été soulevés ici au Canada. D'autres commentaires? Oui, Don? Oui, j'aurais un autre commentaire à faire. Ce que nous voulons voir à la longue, particulièrement dans l'industrie de la musique, on voit un certain rapprochement des créateurs et des consommateurs. Et notre objectif, c'est de créer une occasion d'affaires permettant aux consommateurs d'avoir accès à la musique qu'ils aiment. Et je sais qu'on exerce des pressions sur le gouvernement pour exécuter le traité de l'OMPI. Bon, il faut tenir compte des détenteurs de droits, mais il faut aussi que le secteur commercial en bénéficie, les consommateurs aussi. Je n'aime pas le mot consommateur, en effet, parce que nous aimons tous la musique. Oui, c'est une commande valable, c'est une marque que nous avons déjà faite. Il y a un certain décloisonnement. Il y a les amateurs qui créent des œuvres littéraires ou musicales. Nous utilisons des magnétoscopes, nos téléphones cellulaires, pour créer des œuvres. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent créer à l'heure actuelle. Et les gens comprennent ce que ça veut dire être créateur. D'autres commentaires? Oui, Barry? Bon, il nous reste 4 minutes. J'aurai un autre commentaire à faire. Il s'agit en effet des prochaines étapes et ce que l'on fait maintenant. Et comme vous dites, vous avez reçu beaucoup de commentaires de la part des Canadiens et Canadiennes. Et c'est très bien. Maintenant, quelle est la meilleure façon de procéder par rapport au droit d'auteur, à la lumière de tous ces commentaires? Bon, je vous propose ce qui suit. Il y avait des années, un rapport sur l'article 92, une approche par étape. Maintenant, je pense que nous devons cerner les réformes à aborder, quelles devraient être les priorités et ce qu'il faudrait étudier en conséquence. Donc, on prend le rapport sur l'article 92 afin d'établir des priorités. Certaines questions ont déjà fait l'objet d'études exhaustives, la protection des fournisseurs de services Internet, etc., ainsi que l'OMPI, l'accès privé des utilisateurs. Maintenant, on devrait prendre un engagement par rapport aux autres questions qu'il faudrait étudier. Parce que si nous essayons d'étudier toutes les questions en même temps, il faudrait des années ou même des décennies avant de pondre quoi que ce soit. Donc, on a déjà abordé la question dans une certaine mesure. Il faut établir des priorités et procéder à l'étude de ces questions, et cela par étapes. Oui, je vous remercie de votre commentaire, c'est important. Nous voulons que des initiatives portent des fruits parce que nous vieillissons au moment où on parle. Donc, je vous remercie de vos commentaires. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je tiens à remercier tout le monde de sa participation. Nous allons afficher le compte rendu sur le site web une fois la traduction complétée. Et cela fera partie du rapport de consultation. Et nous ajoutons toujours des communications au site permettant aux gens de comprendre les différents points de vue exprimés. Donc, je vous remercie de cette discussion. Ma prochaine séance aura lieu à Toronto dans 2 semaines à peu près. Nous allons faire une table ronde et une réunion populaire. Est-ce qu'on a déjà fait la séance de Winnipeg? Oui. Et il nous reste Edmonton et Peterborough. Donc, merci encore une fois. Merci de votre participation.